Et comme annoncé, nous accueillons Jack Lang, ancien ministre de la Culture et actuel président de l'Institut du Monde Arabe, qui présente la 5e édition des rendez-vous de l'histoire de l'Institut du Monde Arabe, avec tout d'abord une réaction et votre vision, Jack Lang, sur le moment que traverse la France.
Une réaction sur quoi ? Sur
le grand débat, sur la manière dont la France aujourd'hui a affaire avec une crise sociale et cette vision que le Premier ministre a délivrée hier au sujet donc de ce grand débat et de sa restitution.
Une crise sociale, c'est l'évidence. Je ne vais pas dire et redire ce que vous exprimez ici et ce que les citoyens français expriment depuis des semaines. Donc je ne sais pas si une réponse sera apportée à cette crise sociale. Chacun attend la parole du président de la République. Ce que j'ai entendu hier de la bouche du Premier ministre, qui est un homme rationnel et solide et sérieux, n'ouvre pas pour l'heure des portes si grandes à une remise en mouvement du pays. C'est ça le plus important à mes yeux, c'est redonner un sens, redonner du souffle, redonner de l'élan, redonner de la force dans tous les domaines. Là où on est en train de parfois s'engluer un peu dans des considérations techniques, pourquoi pas. Mais en même temps, chacun voudrait comprendre le cap. Peut-être que c'est ce à quoi le président de la République en ce moment réfléchit, pour que nos concitoyens sachent vers quels horizons, vers quelles perspectives, vers quelles frontières il propose au pays de s'engager. Moi, je ne crois pas que la vie politique puisse être une addition de mesures techniques, si bonnes soit-elle. Il faut d'abord une vision, il faut d'abord une mobilisation du pays. Bon, l'idée du grand débat est une bonne idée, c'est même sans précédent qu'on ait pu pendant des semaines et des semaines assurer des rencontres entre les uns et les autres. Débat d'ailleurs, c'est même pas si sûr, parce que c'est souvent à sens unique. Mais enfin, peu importe, c'est déjà mieux que rien. Voilà, alors, enfermer les solutions à venir dans le débat que Frédéric Say a évoqué entre dépenses publiques, fiscalité, c'est quand même nous mettre en tenaille.
Pourquoi le pays est-il dans cet état-là, Jack Lang?
Il y a un sentiment, vous savez, relisons Tocqueville, relisons les analyses de la culture française. Ce pays qui est le nôtre, c'est un fabuleux pays, plein de ressources, de talents, d'imagination. Il a besoin de deux choses, c'est contradictoire apparemment. D'un côté, il a besoin que les hauts dirigeants du pays donnent le là et indiquent la ligne et le cap et proposent, je répète, de grands projets. Et de l'autre, il y a une exigence localement, ville par ville, de proximité et d'égalité. Bon, j'ai le sentiment que cette exigence d'égalité et proximité a été assez bien perçue dans les médias ici ou là. Par quoi se traduira-t-elle? Va-t-on rendre la fiscalité plus juste? Dire que l'on veut diminuer la fiscalité, pourquoi pas, mais au bénéfice de qui? Sur cette question, il n'y a pas de réponse.
Jack Lang, il y a un mot qui a été très peu, voire pas prononcé pendant le grand débat, c'est le mot culture. Et là aussi, j'aimerais votre analyse.
Bon, disons que ce grand débat s'est engagé à partir des revendications des Gilets jaunes. Pouvoir d'achat, démocratisation, fiscalité. Donc du coup, le débat a été, par les pouvoirs publics, enserré par ces grands thèmes. Ni la culture, ni l'éducation, ni la recherche scientifique, ni l'avenir du pays n'étaient mis en débat. Alors, le résultat est là, en effet, ces sujets vitaux occupent une place modeste.
Vitaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on pourrait aujourd'hui espérer, attendre, c'est ce que vous avez dit plusieurs fois, une politique culturelle plus ambitieuse qui servirait peut-être à la cohésion nationale, Jack Lang?
À l'évidence, oui. Disons que, pour ne parler que du ministère de la Culture, qui n'est pas le seul ministère culturel, il y a le ministère de l'Éducation qui est un ministère culturel aussi. Depuis 15 ans ou 20 ans, il part en quenouille. Il faut aller sur place pour comprendre que les directions des affaires culturelles n'ont plus un centime, n'ont plus aucun moyen, qu'il n'y a plus d'énergie centrale. Et Franck Riester, qui est une personnalité que j'aime beaucoup à titre personnel. C'est un homme honnête, sérieux, méthodique, a devant lui une tâche immense pour redonner à ce ministère et à cette politique, encore une fois, un élan qui permettrait de mobiliser les talents, les énergies et les créateurs.
Vous, comment avez-vous vu les choses? Comment les avez-vous prises? On a vu, par exemple, qu'on célébrait il y a peu de temps les 30 ans de la pyramide du Louvre. Il y avait des grands travaux. Bref, comment avez-vous envisagé une politique culturelle à l'échelle de la nation?
Vous parlez de l'époque où j'étais ministre. Absolument. Ça n'a rien à voir. Écoutez, à l'époque, si vous voulez, le président de la République, François Mitterrand, et nous tous avions considéré depuis des années avant 81 que la culture, l'éducation, la recherche, ce serait au centre même de la société. Pas latéral, pas marginal, pas décoratif. Le cœur du cœur. Et par ailleurs, nous étions munis de cette pensée que nous devions mettre en application nos engagements. Ben, ça s'est traduit par des choses concrètes. Dans les jours qui ont suivi, j'ai obtenu de François Mitterrand, dans les jours qui ont suivi, le doublement du budget de la culture. On n'a pas chipoté. J'ai obtenu, dans les jours qui ont suivi, l'adoption d'une loi sur le prix unique du livre pour assurer la prééminence de l'intérêt supérieur de la création littéraire sur les profits à court terme.
Le prix unique du livre, qui est souvent évoqué comme étant l'une des raisons pour lesquelles les librairies en France, avec toutes les difficultés économiques, par ailleurs se maintiennent, Jack Lang. Comment ça s'est passé? Comment vous avez réussi à arracher cette décision?
C'était très difficile, mais nous étions habité par une détermination absolue. Nous avions travaillé avant 81 avec les éditeurs, notamment avec un homme admirable qui s'appelle Jérôme Lindon, qui est l'éditeur de Marguerite Duras, et de Samuel Beckett. Et nous étions décidés. On s'est heurté à quelques obstacles juridiques vite surmontés. Simplement, la bataille a continué au-delà de l'adoption de la loi, parce que les grands groupes nous ont poursuivis en justice, on est allé jusqu'à Luxembourg. Ça a été une longue lutte. Mais en même temps, quand il y a la volonté, le résultat est là, voilà. Et aujourd'hui, cette loi, heureusement, s'applique partout et certains pays songent à s'en inspirer.
Et les grands travaux, on a fêté ces 30 ans de la pyramide du Louvre. Comment arracher ce type de budget et ce type d'ambition architecturale, et d'ambition urbaine également?
Mais c'est la même chose, si vous voulez. Nous avions cette conviction profondément ancrée en nous que, je répète, que la culture était, disons, l'âme du pays, que c'était une source de développement aussi, une source d'épanouissement, une source de socialité. Et donc, nous avons mis nos paroles en harmonie avec nos actions. Et à partir de là, un peu partout, on surgit à travers le pays, et pas seulement à Paris, un peu partout à travers la France, le Centre National de la Bande Dessinée à Angoulême, l'École Nationale de la Photographie à Arles, qui est un tel succès que l'on construit aujourd'hui à Arles un nouvel édifice, les 200 musées qui ont été rénovés en même temps que le Louvre, les bibliothèques de France qui étaient à l'abandon. Nous avons construit, je crois, près de 2000. Les centres d'art contemporain qui n'existaient pas ont là aussi se sont élevés ici ou là, un peu partout dans le pays. C'était une volonté absolue. Alors, moi je rêverais évidemment que ce rêve permanent soit à nouveau d'actualité. Il faut qu'à nouveau que ce qu'on croit impossible devienne possible.
Mais alors pourquoi ça s'est perdu? Ça s'est perdu quand? Sous Nicolas Sarkozy? Sous François Hollande? Est-ce que c'est datable, Jacques Lang?
Ben c'est datable, oui. Ça remonte à 15-20 ans. C'est petit à petit, insensiblement. Le ministère de la Culture a perdu sa substance, a perdu ses moyens, a perdu... Voilà. Et c'est une situation assez triste. En même temps, si vous le permettez, l'autre grand ministère de la culture, c'est le ministère de l'éducation. C'est là où les
que vous avez occupé également.
Oui, c'est là où les enfants du pays ont la possibilité de résister en quelque sorte à l'univers de médiocrisation, de standardisation, de mercantilisation qui nous environne. Et un des points sur lesquels je me suis battu avec Catherine Tasca, c'est l'instauration obligatoire dans toutes les écoles de France, de la maternelle à l'université, de l'enseignement et de l'éducation, de l'art et de la culture. Et cela, évidemment, s'est accompagné de moyens importants, de changements des programmes, des horaires et le reste, la présence des artistes, des écrivains, partout. Ça a été un mouvement formidable qui a créé l'enthousiasme. Alors, aujourd'hui, le ministre Blanquer, qui est là aussi, disons, un homme sérieux et qui est un vrai professionnel, est assez ouvert à cette question. En particulier, il a adopté un plan pour le chant choral, en en confiant la réalisation à quelqu'un qui était un de nos collègues, Marc-Olivier Dupin. Ça, c'est un point, mais c'est tout le reste. Et il faut absolument...
Tout le reste, c'est-à-dire
tout
quoi
le reste, tout le reste, c'est le cinéma, c'est la musique, c'est le théâtre, c'est la littérature. Et donc, je considère que l'art et la culture doivent être proclamés comme fondamental, puisque c'est l'expression utilisée à l'école, au même titre que les mathématiques et le reste. C'est fondamental pour l'épanouissement de l'enfant, c'est fondamental pour son accès à la culture, c'est fondamental pour assurer un minimum d'égalité entre les enfants, quelle que soit leur origine, c'est fondamental pour tout. C'est fondamental aussi pour l'accès aux autres formes d'enseignement. Plus la culture et l'art sont présents dans l'école, plus vous accédez facilement aux mathématiques, à la langue française, et au reste, ça forme un tout.
Mais on a l'impression, Jack Lang, peut-être à tort d'ailleurs, qu'un monde est en train de disparaître, notre monde, celui qu'on a connu, le monde des livres. Par exemple, on voit que la lecture se perd. Il y a eu des chiffres absolument catastrophiques. Alors, ils venaient d'Allemagne, mais on voyait très clairement qu'on perdait des millions de lecteurs parce que les individus sont aujourd'hui plus tentés par d'autres formes de culture, par exemple les séries. Bref, il y a un monde qui disparaît. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette disparition, si vous êtes d'accord avec le constat ?
Non, d'abord, je pense qu'il est souhaitable de se livrer à une radiographie de la situation, une radiographie honnête et objective. Quel est l'état des pratiques culturelles ? Quel est l'état de l'imaginaire collectif ? Et on ne peut pas agir et concevoir une politique de l'éducation et du savoir et de la culture sans connaître la réalité, sans se laisser impressionner par les études de l'un ou de l'autre. Bon, je dirais que précisément, si les choses se dégradent dans l'univers qui nous entoure, raison de plus pour que l'école soit le lieu principal de culture, de savoir, d'éducation, de la sensibilité, de l'imagination. Et c'est à portée de la main. Ça ne réglige pas des réformes. Et vous auriez avec vous les professeurs, les parents, la société.
Et l'idée selon laquelle la culture servirait les privilégiés, puisque ça c'est quelque chose que l'on entend depuis quelques années, avec là aussi une critique sous-jacente, le ministère de la Culture finalement provoquerait des effets d'aubaine, c'est-à-dire que l'on permettrait aux classes les mieux dotées en capital culturel d'aller à des spectacles où ils iraient de toute façon.
Ce n'est pas tout à fait vrai. Bon, j'entends ce discours. Écoutez, prenons un exemple. La Villette, le parc de la Villette, c'est une des réalisations dont nous sommes collectivement les plus fiers. J'y étais ces jours derniers 3 fois. Hier, pour une exposition sur la musique électronique. Il y a quelques jours, pour un spectacle de théâtre. La semaine dernière, pour la Philharmonie. C'est fabuleux. Et ce qui est fabuleux, c'est à la fois l'extraordinaire qualité des programmes et des publics qui viennent de partout, du nord de Paris, des communes autour, un public de jeunes, de vieux, de toutes les classes sociales. On ne peut pas nier là qu'il y a une petite révolution culturelle. Et vous feriez le tour de la France, que vous constateriez un peu partout des changements profonds et des pratiques culturelles qui se transforment. Mais néanmoins, l'école d'abord, pour donner à chaque enfant français le goût de la lecture, la passion de l'écrit, la passion de l'écriture, la passion de la musique, la passion du théâtre, la passion du cinéma, et c'est, je le répète, à portée de la main.
On a parlé aussi du rôle des bibliothèques.
Eh bien, les bibliothèques, si vous voulez, quand en 81, nous avons assumé nos responsabilités, il n'y a pas 3 centimes dans le budget de la culture pour les bibliothèques. Et nous avons décidé d'en faire une grande cause nationale. Avant même de construire la Bibliothèque de France, nous avons dit que partout à travers le pays, les bibliothèques des départements, les bibliothèques des villes seraient rénovées ou construites. Ce sont 2 ou 3 000 qui ont vu le jour et qui sont des lieux de rencontres, d'échanges à l'évidence. Alors on dira pas assez fréquentées par ceci ou par cela. En tout cas, elles sont là et ce sont quand même autour de l'écrit des lieux de vie.
Des lieux de vie, effectivement, avec là aussi un brassage social. D'autres propositions sont aujourd'hui sur la table. On les entend à droite, à gauche. On a évoqué notamment Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, une suppression de la redevance sur l'audiovisuel public. Qu'en pensez-vous ?
Ça c'est encore un autre sujet. Bon, d'ailleurs, Moi, j'ai de très bons rapports avec M. Darmanin, qui avec, vous savez, puisqu'on ne dit pas un mot de Lima, je vais quand même dire un mot de Lima. Quand
non,
même.
Mais
je suis président de l'Institut du monde arabe.
Encore ensemble quelques minutes.
Oui, oui,
Jacques
bien
Lang.
Sûr. Et Monsieur à Tourcoing.
Restez là.
À Tourcoing, nous avons créé un Institut du monde arabe. Et Monsieur Darmanin, vous le savez, a été maire de Tourcoing et ça passionne toujours. Et actuellement, il y a une magnifique exposition sur les photographes algériens. Et bon, je le rencontre assez régulièrement, je l'ai vu il y a quelques jours et je lui dis mon sentiment. Personnellement, je suis hostile à la suppression depuis toujours.
Pourquoi
la suppression de la... Mais parce que, comme l'a dit Frédéric, le commentateur, c'est un tir à un coup. Vous supprimez cette redevance, finalement, bon, très bien, mais ça veut dire que c'est l'État qui va remplacer. Déjà l'État croule sous les dépenses, dit-on. Ça veut dire en réalité que l'État finira par se désintéresser. Donc c'est la publicité qui gagnera progressivement. C'est une forme indirecte de privatisation. Donc la sagesse serait de ne pas remettre en cause cette redevance. Et je dois dire que Madame Nissen, dans son mandat, avait évoqué l'idée de faire participer l'ensemble des médias qui transmettent les émissions de télévision et de radio. Je crois qu'elle n'avait pas tort.
Juste une dernière question sur l'Europe, Jacques Lang. Nous sommes aujourd'hui en période électorale, les élections européennes. Là aussi, votre sentiment sur la portion extrêmement congrue occupée par la culture dans ces différents programmes et dans la politique européenne.
Bon, ce n'est pas nouveau. Je veux dire que le traité de Rome ne comporte qu'une disposition sur la culture, celle sur le patrimoine. Et quand je me trouvais en responsabilité, je me suis bagarré pour que la culture fasse partie des priorités de l'Union européenne. D'abord, nous avons dû nous résister aux attaques de la Commission et de la Cour de justice qui voulaient mettre en pièces la loi sur le prix du livre parce qu'ils sont habités par une idéologie de la libre concurrence qu'ils voulaient appliquer à la culture. Finalement, on a gagné. Mais quand même, des choses se sont faites. Erasmus existe pour l'éducation. Nous avons, dans le domaine du cinéma, favorisé des coproductions. Nous avons créé, j'ai créé avec Mélina Mercouri, les capitales européennes de la culture, qui sont un grand succès dans les pays ou les villes où ça se passe. Mais il y a d'autres initiatives à prendre. Disons que, grâce d'ailleurs au rôle que la France a joué, les créateurs et le gouvernement, nous avons pu faire adopter par le Parlement européen une loi protectrice des droits d'auteur, récemment.
Jacques Lang, les rendez-vous de l'histoire de Lima, du 11 au 14 avril, c'est un partenariat avec France Culture, des grands thèmes, alors j'en cite quelques-uns, les soins du corps, amour, sexualité, genre, d'autres. Pourquoi avoir décidé de rassembler ces différents thèmes lors de ce rendez-vous ?
C'est l'Institut du monde arabe. Ce n'est pas seulement de grandes expositions, et je me permets d'un mot de dire que nous avons ouvert hier une exposition que je me permets de vous recommander sur foot et monde arabe, et qui raconte la fabuleuse histoire du foot dans les différents pays, en France même, et voilà, peut-être que nous aurons une autre occasion d'en parler. Mais l'Institut du monde arabe, c'est aussi une sorte d'université populaire, de think tank ou de laboratoire, si vous voulez, et sur tous les sujets, aucun sujet n'est tabou, nous réunissons des publics et des personnalités scientifiques ou culturelles sur les droits des femmes, sur l'économie, sur le patrimoine, sur régulièrement des rendez-vous de l'actualité. Et là, les rendez-vous de l'histoire, je les ai introduits un peu à l'image de ce que j'avais réalisé à Blois avec plusieurs amis pour les rendez-vous de l'histoire. On les a adaptés à l'Institut. Et chaque année, c'est la 5e édition, et France Culture, merci France Culture, merci la directrice de France Culture et les équipes de France Culture, Emmanuel Laurentin dans quelques instants, je crois, Madame Steiner, qui va ouvrir avec moi les rendez-vous de l'histoire sur le corps, est associée pleinement à cette belle aventure. Le corps, pourquoi ? Parce que c'est une question clé dans toutes les religions, et pas seulement la religion de l'islam. Et avec des historiens, avec des spécialistes, nous allons aborder tous les sujets que vous évoquiez à l'instant, des sujets évidemment assez explosifs, et nous essaierons de montrer comment dans l'histoire, tour à tour, le corps a fait partie de la culture. Je pense au 9e, 10e siècle, le corps chanté par les poètes arabes ou de langue arabe, et ensuite le corps conspué, caché ou humilié. Et aujourd'hui, une situation qui commence à évoluer dans différents pays arabes.
Justement, ces évolutions, comment les voyez-vous? On a beaucoup parlé de l'Algérie, évidemment, récemment, Jacques Lang.
Oui, mais l'Algérie aujourd'hui est en proie, si j'ose dire, à un mouvement populaire très profond, un désir d'émancipation. Et pour ceux qui, comme moi, nous sommes nombreux, avons participé à soutenir la guerre d'Algérie et la libération de l'Algérie, nous sommes heureux quand un tel mouvement s'exprime. Et je pense que c'est un désir de liberté sur tous les plans. Et vous avez vu, ce qui est réjouissant quand même, que les femmes se trouvent en première ligne dans ces manifestations dans toutes les villes d'Algérie.
Jacques Lang, justement, on trouve un certain nombre de tables rondes qui sont des tables rondes avec effectivement des thèmes qui sont extrêmement polémiques aujourd'hui dans le monde arabe, par exemple homo-érotisme et homosexualité dans les cultures arabes, ou bien encore le corps du prophète avec une enquête historique. Est-il possible d'aborder ces questions qui sont des questions extrêmement polémiques aujourd'hui à Lima?
Oui, parce que nous avons dès le départ, depuis plusieurs années, créé, je crois, un climat de respect, de liberté, de confrontation d'idées contradictoires, et il n'y a pas de raison qu'un sujet ou un autre soit écarté de ces forums, de ces rencontres, de ces débats. Et ce sont des spécialistes de diverses origines qui vont aborder de front tous ces sujets que vous évoquez à l'instant.
Ça veut dire que justement, il est possible d'avoir une évocation, une forme de culture laïque au sein du monde arabe aujourd'hui, alors qu'un certain nombre de positions religieuses se font entendre et qu'il y a une volonté des responsables religieux de reprendre la main dans un grand nombre de pays arabes.
Oui, mais en même temps, il y a une volonté de redonner aux citoyens leur pleine dignité. La religion, c'est une chose. La laïcité que vous invoquez à l'instant donne aux femmes et aux hommes des droits sur leur personne, sur leur relation avec les autres, y compris sur leur relation sexuelle. Et ce qui va se passer pendant 3 jours à l'Institut du Monde Arabe permettra d'aborder tous les aspects, j'allais dire le corps sous toutes ses coutures. Le corps défiguré, le corps sacré, le corps fantasmé, le corps soigné, le corps déchaîné. Il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les expressions libres.
Et alors, pour évoquer le corps dans d'autres endroits et dans d'autres activités, sur le foot, pourquoi avoir décidé de consacrer une exposition au foot au monde arabe, dans l'Institut du Monde Arabe, Jacques Lang?
Parce que le foot, d'abord, est une activité depuis longtemps déjà très présente dans le monde arabe, populaire. Elle est aussi une activité qui facilite l'unité entre les citoyens et l'émancipation des pays. Par exemple, tout un aspect de l'exposition porte sur les clubs de supporters du Caire, de Tunis et d'Alger ou d'ailleurs. Et ce sont ces clubs de supporters qui ont contribué à faciliter les mouvements de libération. Et puis, il y a des histoires fabuleuses qui sont racontées dans cette exposition. L'histoire de l'équipe du FLN, par exemple. Des joueurs, parmi les meilleurs joueurs français d'origine de religion musulmane, qui ont quitté l'équipe de France en 58 pour créer une équipe nationale algérienne qui a parcouru le monde. Et puis, c'est les icônes, les grands personnages, c'est Zidane qui sera évidemment lui aussi mis à l'honneur, mais aussi beaucoup d'autres footballeurs égyptiens ou marocains. Je pense que le foot est un miroir à la fois des régressions et des émancipations. Et je pense que le visiteur va accomplir une traversée, un voyage où il découvrira des choses absolument étonnantes, y compris, je le dirais, les spécialistes de football seront étonnés de découvrir des pièces et des œuvres qu'ils n'ont jamais vues.
C'est aussi une manière, Jacques Lang, de faire rentrer au sein de l'Institut du Monde Arabe, donc d'un musée, la culture populaire.
Absolument, et toutes les formes de culture que nous acharnons depuis quelques années à introduire, la poésie aussi, qui n'y avait pas place, grâce au rendez-vous de la poésie organisé par Marie de Courtieu, mais aussi la science, mais aussi la santé, mais aussi naturellement les arts et ce qu'on appelle la culture.
Donc, cette exposition au sein de l'Institut du Monde Arabe, Foot et Monde Arabe, et puis la cinquième édition des rendez-vous de l'histoire de l'Institut du Monde Arabe, c'est du 11 au 14 avril, avec par exemple vendredi 12, une carte blanche corps et sexualité en migration dans l'histoire du monde arabe, corps et révolution le samedi 13,